Mais Seigneur, je me remets devant toi et te remercie déjà de cette louange de ce matin qui a vraiment introduit ce que le Seigneur voulait dire aujourd'hui. Et je te remercie aussi que tu as montré qu'on devait être nous-mêmes, nous, tels que tu nous veux. Et l'obéissance en fait partie, et c'est pour ça que j'ai accepté de parler un petit peu du langage du corps. Parce que je vais obéir à mon pasteur et parce que je sais aussi sur mon cœur que le peuple de Dieu soit complet. Et voilà, j'entendais ce matin André prophétiquement qui dit « Je me lève pour toi, je me lève pour toi ». Et c'est vrai que si on dit « Je me lève pour toi »,« Je me lève pour toi », même fort, « Je me lève pour toi », et puis que je ne bouge pas, est-ce que vous trouvez que ça a la même portée que « Je me lève pour toi ». Vous voyez, ça change tout. Où je suis sur ma chaise, « Je me lève pour toi ». Donc, le corps a son langage. Et c'est juste de ça dont je voudrais vous parler. Donc, simplement, c'est un outil de communication au même titre que la parole. Le langage du corps existe. C'est vraiment, puisque dans les cinq langages de l'amour, il y en a un qui est le contact, la tendresse, les câlins, etc. Et c'est bien, on peut pas dire « Oh, qu'est-ce que je t'aime tendrement !» Et puis pas bouger, c'est pas possible. Alors, ça fait partie de notre communication avec les autres. Avec la parole, il y a aussi l'écoute. Alors, quand quelqu'un nous parle, on l'écoute. Mais avec les gestes et les mimes et les danses, il y a notre regard. Donc, on n'est jamais... Il y a toujours une communication. Et cette communication est importante parce que, pour Dieu, elle est importante aussi. Avec Dieu, on a le même langage. Il nous regarde, mais il ne regarde pas trop. Il regarde notre cœur. Je veux dire, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et il connaît notre cœur. Et moi, si je veux savoir le cœur de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? J'utilise mon regard, je lis la parole, je m'imprègne de sa parole. J'utilise mon regard, mon cœur, je regarde mes frères et sœurs. Et je vois tout ce qu'il y a en eux de divin et qui va me faire connaître davantage du cœur de Dieu. Donc, voyez... On est corps, âme et esprit et on utilise tout. C'est très très important d'utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui et avec les autres. Par exemple, les gestes, bon voilà, les gestes ont des limites, on a besoin de tout. Par exemple, si je veux faire une conversation philosophique avec quelqu'un, c'est évident que je ne vais pas pouvoir le faire avec des gestes, voyez ? À moins que je sois sourd-muet, bon, c'est autre chose. Mais si je veux, par contre, dire « je t'aime », comme disait Flo à mon enfant, mon mari, je vais l'accompagner de gestes de tendresse. Donc, chaque langage a sa limite et tout se complète, et même pour Dieu. Parce que j'ai regardé dans Ésaïe 66, puis il y en a un autre que je n'ai pas trouvé, quand il dit « je consolerai mon peuple », je crois que c'était Jérusalem, « je prendrai sur mes genoux et je le cajolerai », comme une maman cajole son enfant. Et puis aussi, il y a un autre passage où il dit « je mettrai ma joue contre sa joue ». Et ça, ce sont vraiment, vraiment des gestes de tendresse. Et pour bien nous faire comprendre ce qu'il veut faire, Dieu, il nous parle de ces gestes-là. Et donc, vous voyez, on en a besoin. Alors, avant d'aller plus loin, je sais bien qu'on se dit depuis tant d'années, oui, Marie-France là-bas, elle bouge dans la louange et tout ça, mais je voudrais bien que vous sachiez que ce n'est pas quelque chose d'inné, d'acquis. Je me suis convertie à 30 ans et j'ai découvert le Seigneur et sa vie. Et j'allais dans une église, mais impossible de bouger un doigt, ni même un doigt de pied. Je veux dire, j'étais comme ça, et pourtant j'enviais les autres. Oh, ils levaient les mains, ils louaient, je les enviais, mais puis comment ils peuvent faire ça? Mais ça ne se fait pas, etc. Et moi, je ne bougeais pas. J'étais élevée dans une église catholique, donc, et puis il y a longtemps, ça a peut-être changé, mais il fallait chut, Maman, chut, dès qu'on parlait, fallait pas bouger. On était incolore, inodore. On bougeait pas sur notre chaise. Fallait surtout pas se faire remarquer. Si bien que moi, j'étais élevée comme ça dans l'église. Et quand j'étais ado, et je pense que les ados vont me comprendre, si ma maman chantait trop fort, je disais, chut, parle pas trop fort. Chante pas trop fort. Ou alors, si elle voulait me parler, chut, maman. Ça, dès qu'elle se faisait remarquer, ma maman, j'étais couverte de honte. Et je disais, tu te fais pas remarquer. Parce que c'était l'éducation qu'on avait reçue dans une église. Et je me souviens même à mon mariage, et pourtant c'est gay un mariage, eh bien, j'ai des photos, je vois la tête des gens. C'est pareil qu'un enterrement, hein. Oh, sérieux comme ça. Et voilà, donc, évidemment, quand on se convertit et qu'on arrive dans un endroit où on rencontre le Seigneur, qu'on est bouillonnant de joie dans notre cœur, et puis qu'on ne peut pas, parce que tous ces blocages du passé nous bloquent, nous empêchent d'être celle que Dieu veut qu'on soit. Donc je me souviens très bien que mon pasteur de l'époque et sa femme ont prié pour moi, parce que ça a duré longtemps, hein, et puis j'ai été libérée, mais petit à petit, pas tout de suite, hein, petit à petit j'ai fait comme ça, pas trop. Et puis, petit à petit, ma vraie nature, parce que c'était bien ma vraie nature, a pu s'exprimer. Et je me souviens qu'à la journée des dames, Florence nous avait enseigné qu'il fallait qu'on soit comme Dieu veut qu'on soit, c'est-à-dire le meilleur de nous, en fait. Pas le nous qui est transformé par l'éducation, par les blessures, par les réflexions qu'on a pu nous faire, pas celui-là, par les copains qui se moquent ou les adultes qui disent des choses qui nous rabaissent, etc. Ça, c'est pas ce nous-là qu'il veut, le Seigneur. Il veut le nous, le moi, le vous, qu'il a créé. Et comme tout à l'heure, j'avais cette vision, il nous avait vus dès qu'on était une petite masse informe dans le ventre de notre maman. Et il savait comment on serait. Donc, vous voyez, il aime bien révéler notre vraie nature. Alors, bien, moi, ma vraie nature est expansive, c'est vrai. Mais sachez que notre merveilleux Seigneur ne forcera jamais ceux dont la nature est d'être sobre. Sobre aussi bien dans l'expression corporelle que dans l'expression verbale. Si quelqu'un n'est pas bavard, il ne va pas lui faire devenir explosif et bavard. Il va garder sa nature, mais il va le libérer. Il pourra quand même faire des gestes d'adoration comme on va voir dans la Bible, que tout au long de la Bible, le peuple hébreu, voilà, ça fait partie de sa vie. Les mouvements, la danse, et voilà, l'être entier. Alors, comme le chanteur utilise sa voix, on l'a fait ce matin, le musicien son instrument, on l'a vu ce matin, quelquefois les deux à la fois, on le voit aussi. Le peintre utilise ses couleurs, ses formes pour glorifier Dieu. Et bien le danseur, lui, alors là on va parler du danseur, hein. Le danseur, lui, et le mime vont utiliser leur corps. Ceux sur lesquels Dieu a mis un appel spécial pour communiquer sa gloire par le mouvement. Donc, vous voyez, on va parler de deux choses. On va parler de ceux qui ont l'appel, puis on va parler de nous tous, et nous tous libérés et nous-mêmes. Donc, le danseur, il va utiliser son corps, mais attention, même nous d'ailleurs, la vie de Dieu avant doit être libérée dans nos corps. Alors, pour qu'elle soit libérée, eh bien, il faut une certaine purification. Romains 12, 1, on le connaît tous, dit « Je vous exhorte... » Attendez, parce que moi j'ai la version en français courant, je vais la prendre. Mais on le connaît par cœur, hein, je pense. La version « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. » Donc nos corps, pour être offerts à Dieu, il faut qu'ils soient quand même un petit peu nettoyés, je ne sais pas, nettoyés spirituellement. Dans 1 Corinthiens 6, 12, on dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné ?» Alors là, oui, ça nous fait réfléchir. 1 Corinthiens 10, 31. À la fin du verset, « Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. » Voyez, ça change tout. Alors en tout premier, qu'on soit appelé à être mime et danseur, ou qu'on soit membre d'une église, qu'on soit chrétien tout simplement, pardon, nous devons être restaurés et purifiés de tout ce qui a pu fausser notre compréhension des choses. Tel que je vous disais, moi, je pensais qu'à l'église, il fallait ne pas bouger, ne rien dire et être très, très digne, sans jamais rien écouter d'ailleurs, mais très digne. Et ça, c'était quelque chose que Satan, hein, c'est très faux, hein, c'est tout l'inverse. On peut bouger, on peut danser, on peut louer et surtout écouter, bien sûr. Et là, on va gêner l'ennemi, hein. Donc cette restauration, il n'y a que le Seigneur qui peut nous la donner. Et il veut que notre louange, quelle qu'elle soit, qu'elle soit sobre ou qu'elle soit explosive, qu'elle soit en chant, qu'elle soit en parole, en prière, qu'elle soit en mime et en danse, qu'elle soit en peinture, sculpture, pourquoi pas, elle doit être donnée comme le meilleur de nous-mêmes dans un être qui est renouvelé par la vie de Dieu en nous. Et qu'on soit comme le meilleur de ce que Dieu veut que nous soyons. Ou au moins, essayer d'y arriver, parce que bon, c'est pas évident. Dieu regarde notre cœur. Voilà, on n'a aucune autre motivation que Dieu regarde notre cœur et il veut la louange de notre cœur. Et quelquefois, la louange de notre cœur, elle passe par les expressions du corps. Dans le psaume 87, 7 nous dit « Les chanteurs et les danseurs s'écrient « Toutes mes sources sont en toi » et non pas « Mes sources sont dans l'esthétisme, mes sources sont dans « Je veux faire un beau spectacle, je veux être la vedette, enfin, etc. » Vous savez bien tout ça, mais « Toutes mes sources sont en toi et tout ce que je fais, c'est pour toi et tout ce que je fais, c'est pour te glorifier, Seigneur. » Corps, âme, esprit. Alors, notre adoration, voilà, nous l'exprimons évidemment comme nous le sentons, bien sûr, mais aussi avec le plus profond de notre cœur. Hein. André a insisté, et il a raison, sur l'adoration. Et l'adoration, ce sont des moments privilégié. Vous voyez, c'est important la prière, très important. C'est important la lecture de la parole, c'est obligatoire. On peut pas sinon adorer. Mais quand on a eu tout ça dans notre journée et que on a un moment d'adoration, ce sont des moments qui nous restaurent, qui nous lavent, qui nous rendent plus proches du Seigneur. Quand nos cœurs sont complètement en extase, on peut dire, hein. Il y en a qui vont dire c'est mystique, je sais pas moi, mais en adoration, avec rien d'autre dans notre tête que la gloire de Dieu, sa bonté, sa beauté, ce qu'il a fait. Enfin, voilà. Et l'adoration, c'est vraiment important. Moi, je vous encourage à prendre du temps après la prière, après la lecture de la parole, et à prendre du temps dans l'adoration. Parce que c'est là que vous allez recevoir énormément de votre papa. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça pour moi. Donc, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a plusieurs sortes de danses. Vous avez vu la semaine dernière, et c'était merveilleux, une danse chorégraphiée à plusieurs. Et voilà, donc, il y a une chorégraphie, elle veut dire quelque chose, c'est un enseignement, on y reviendra, et elle est faite à plusieurs. Et puis, il y a les danses de louange ou gestes d'adoration personnelle qui sont spontanées, qu'on n'a pas dit « Oh, ben, je vais faire tel mouvement ». Non, pas du tout. Pouf, ça vient parce qu'on est rempli du Seigneur. Et la danse fait partie intégrante. Ces deux danses-là, on va les voir, font partie intégrante de la culture biblique du peuple de Dieu. Chaque peuple avait sa propre culture là au tout départ, et chaque peuple avait sa façon de danser, qui s'est donné son identité. On verra que le peuple de Dieu, il danse en ronde, il danse en ligne. Mais là, il y a des chorégraphies bien spécifiques et qui fait partie de la culture. C'est en eux. Et c'est une expression naturelle et épanouie de l'être vivant dans sa relation intense avec son Créateur. Alors, on va voir dans... Très vite, je vous l'ai dit. Dans Juges, on ne va pas les lire, je vais vous les lire. Dans Juges 11:34, Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. On n'a pas dit qu'elle chantait là, vous voyez ? Elle sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. Dans 1 Samuel 29:5, il est écrit, n'est-ce pas David pour qui on chantait en dansant ? Pour qui on chantait en dansant ? Voyez, chanter et danser. Il y a danse tout seul, chanter et danser, et puis chant seul aussi. Pour qui on chantait en dansant, Saül a frappé ses 6 000 et David 1 000 et David 10 000. Il y avait tout ce chant de Myriam et de tous ceux qui suivaient. Bon, dans Cantique des Cantiques encore, je ne vais pas tous les dire. Et dans 1 Samuel 18:6, les femmes. Et toutes les femmes, alors c'est ça qui est bizarre, oui. Les femmes, parce que heureusement qu'il y a David qui danse, hein. Les femmes sortent en dansant et en chantant quand l'armée est revenue, l'armée de Saül, mais que le petit David avait tué le géant Goliath et que les Philistins étaient partis. Enfin, il y a eu la défaite des Philistins. Et les femmes, elles sont sorties tout simplement en dansant de joie. En dansant de joie. Et ça c'est important, hein, de danser de joie. Et je termine. Voilà. Après, dans Luc, on voit que le fils aîné, qui était dans les champs, vous savez, le fils prodigue, et il était dans les champs, et lorsqu'il revint à la maison, il entendit la musique et des danses. Son frère était rentré. Musique et danse. Et je vais y aller aussi dans les psaumes, mais. Moi, je dis qu'il y a une petite partie de tout ce qui est chant et danse dans la parole de Dieu. Mais c'est ce que j'ai choisi. Psaume 30, verset 12. « Tu as changé ma plainte en chant, en danse de joie. » Psaume 149, verset 3. « On l'a déjà dit, toutes mes sources sont en toi. » Et les danseurs et les chanteurs s'écrient, « Toutes mes sources sont en toi. » Psaume 118, verset 27. On voit qu'il faisait des rondes. Psaume 150, verset 4. Acclamez-le en dansant. Voilà. Vous voyez, c'est important. Mais il faut toutefois dire que l'ennemi aime pervertir ce que Dieu a donné, les belles choses que Dieu nous a données. Et il aime détourner, il aime copier et voire contrefaire tous les arts en général. Et on le sait malheureusement. Et on a plusieurs exemples bibliques. Moi, j'ai choisi... Celui où, dans Exode 32, celui où, quand Moïse descendait de la montagne, il avait reçu les tables de la loi et il s'approchait du camp. Et qu'est-ce qu'il voit ? Le veau d'or et le peuple qui danse autour. Et là, ce n'était pas des danses d'adoration à Dieu. C'était des danses d'adoration à l'ennemi de nos âmes, celui qui cherche. Et alors, il jeta ses mains. Il jeta de ses mains les tables et il les brisa au pied de la montagne tellement il était en sa colère s'enflamma. Et voyez, l'ennemi, c'est ce qu'il veut. En fait, il est content quand il détourne tout ce que Dieu a créé et au service du péché, pour nous faire pécher et aussi pour qu'on ne soit pas à la gloire du Seigneur et aussi pour éloigner, si possible, attention, les jeunes, quelquefois, les élus, ceux qui aiment Dieu, hein. Il faut vraiment avoir beaucoup de discernement et purifier tout notre intérieur de toutes nos blessures, nos vieilles habitudes d'avant, notre éducation, pour vraiment donner au Seigneur dans tout ce qui est artistique et même en tant que peuple de Dieu, le meilleur de nous-mêmes. Et là, on peut offrir notre louange avec joie. Le mot, le terme hébreu pour la danse, c'est machola, machola, traduit aussi parfois par troupe de danse. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des danses en groupe et individuelles, toujours dans la Bible. Il y a des danses danse de réjouissance. On l'a lu tout à l'heure, Exode 15, 20, voilà, le bonheur de retrouver... le bonheur du peuple, voilà, quand après la victoire. Danse de joie d'être en présence de Dieu. 2 Samuel 14 à 16, c'est quand David, vous connaissez tous, voit le coffre qui est revenu. Et il était tellement heureux parce que le coffre de l'Alliance était la présence de Dieu au milieu du peuple, qu'il s'est mis à danser. Alors là, ce n'était pas une chorégraphie, il s'est mis à danser spontanément de joie. C'était sa façon à lui d'exprimer sa joie. Aussi, danse de combat devant l'armée pour mener le peuple dans la joie de la victoire. On a tous en tête les passages de Myriam qui sortait en avant avec ses tambourins et les danses avant, et l'armée suivait derrière parce que ça avait un but. Dieu avait un but, il voulait que les soldats suivent cette joie parce que il les mettait déjà dans la joie de la victoire qu'il allait leur donner grâce aux chants et aux danses. Et aussi, il y a des célébrations pour la victoire de Dieu. 1 Samuel 18, 6 et 7, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, c'est au retour de l'armée de David et Goliath, les femmes qui chantaient et dansaient. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, comme la danse est un moyen de communication visuelle, ça peut aussi être une part puissante du message de Dieu, un enseignement ou complément d'enseignement. Alors là, c'est merveilleux. Je vais revenir à ce qu'on a vu la semaine dernière. André a enseigné sur Ézéchiel, on a repris un petit peu aujourd'hui, très important, se lever, prophétiser qu'on sera à nouveau debout pour le Seigneur, pour pouvoir à nouveau combattre, mais pour pouvoir à nouveau donner, enseigner, évangéliser. Eh bien, il y avait ce qu'André nous a dit avant. Ensuite, on a regardé une merveilleuse chorégraphie, très parlante, parce que on voyait ce qui se passait, on a vu le combat, on a vu les eaux, on a vu les eaux qui reprenaient petit à petit vie, la chair, les muscles, la peau, et à nouveau prêt à combattre pour le Seigneur. Vous voyez, c'est puissant comme enseignement. Je pense qu'André en est tellement convaincu qu'il veut qu'on le refasse. Alors, donc c'est puissant quand on voit une chorégraphie, et ça peut accompagner un enseignement, mais ça peut le donner aussi en entier, avec les limites dont on parlait. Évidemment, il y a quand même besoin de parler de la parole de Dieu. La danse peut être aussi prophétique, et André l'a dit ce matin. La danse et le mime peuvent être aussi prophétiques, au même titre qu'un chant ou qu'une parole. Et je pense que dans les camps et autres, on a tous vu, enfin moi j'en ai vu souvent, des danses prophétiques qui amenaient et après la parole a été dite, mais le geste ébauchait ou expliquait la prophétie. Et voilà, donc ça, dans la parole de Dieu, je ne l'ai pas retrouvé, mais je sais qu'il y a plusieurs mimes prophétiques, notamment pour annoncer la mort de Pierre. Quelqu'un a pris une ceinture, l'a mis autour de lui et l'a tiré pour montrer que la fin de la vie, on le mènerait, il ne pourrait pas avancer tout seul parce qu'il aurait perdu la vue. Et puis il y en a d'autres encore, j'ai pas trouvé, j'ai pourtant passé du temps, mais je sais qu'il y a d'autres dans l'Ancien Testament aussi. Donc la danse, j'ai dit, elle est prophétique. Elle peut être aussi un encouragement, une consolation dans un culte. Si quelqu'un reçoit une danse ou bien danse en adorant, ça peut encourager quelqu'un d'autre et ça peut aussi le consoler, on l'a vu aussi, parce que Dieu nous parle au travers des mimes et des danses si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous. J'ai vu beaucoup, vous avez vu, Jeunesse en mission ou CFNI, ils ont aussi des mimes très très forts et qui parlent beaucoup. Il n'y a pas de parole, mais juste le geste parle. Si on laisse le Saint-Esprit agir au travers de nous, eh bien, on devient un canal. Tout simplement, on n'est pas autre chose qu'un canal en fait. Mais qu'est-ce qui est puissant? C'est la bénédiction que Dieu veut nous, c'est Dieu qui est puissant, et la bénédiction qu'il veut nous donner aussi. C'est-à-dire que nous, on est juste le canal, qu'on chante, qu'on mène la louange, qu'on danse, qu'on prêche, et Et c'est par tous ces moyens-là, puisque corps, âme, esprit, nous sommes créés, que Dieu veut nous bénir. Donc on est le canal de cette puissante bénédiction de Dieu, qui veut qu'on soit debout et qui veut qu'on soit actif pour lui. Alors, en s'adressant en premier au Seigneur, le ou les danseurs libèrent des bénédictions pour le peuple. En s'adressant en premier au Seigneur, le ou les danseurs libèrent des bénédictions sur le peuple. Et on l'a vu la semaine dernière. Le danseur, il danse pour lui, pour le Seigneur, pardon. Mais ça bénit le peuple. Et on va voir... Mais Grégoire n'est pas là, peut-être. On va voir les termes de la Bible pour les mouvements. Et on va un petit peu regarder les mouvements. Il y a une clé juste... Il est parti. Bon. On va voir un petit peu les mouvements, les termes hébreux pour qui nous donnent les mouvements. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas possible de rester comme ça tout le temps quand on loue. C'est pas possible. Parce que est-ce que je gêne peut-être là? Vous voyez, un terme hébreu. On va pas tous les dire, mais moi je vais choisir juste les mouvements d'adoration. Yada. Regardez, jeter les bras en l'air, jaillir en l'air, lever les bras. Ça, sont des mouvements d'adoration. Pardon, donner une offrande, c'est autre chose. Moi, je ne vais peut-être pas pouvoir bien les prononcer, mais le deuxième, Tovda, pas comment on dit, étendre les mains dans un sacrifice de louange pour quelque chose qu'on ne voit pas. Barak, louer, bénir Dieu, s'agenouiller, se courber devant Dieu. Voyez, j'aimerais bien que, ou Christelle, ou quelqu'un qui veut bien, faire les mouvements, comme ça vous verrez, ou Emmanuel peut-être, ou Judith. Mais, quand je l'ai dit, c'est possible? Ah, merci Christelle. Regardez, jeter les bras en l'air, jaillir en l'air, lever les bras. Voilà. Étendre les mains. Ensuite, s'agenouiller, se courber devant le Seigneur. Ensuite, récab, sauter sur ses deux pieds, sauter d'un pied sur l'autre. Voilà, vous vous rendez compte? Et ça, c'est dans toute la parole de Dieu. Sautiller en frappant du pied, bondir, tournoyer en sautant.
Moi, je vous le fais aussi parce que je ne peux pas m'empêcher.
Voilà, amen. Et phasaz, sauter, faire des bonds. Wow. On a un chant qui dit sauter, hein, et je vois souvent les gens sauter, hop, ils restent comme ça par terre, collés, avec de la glu. Mais non, sauter, c'est sauter. Éclater de joie en dansant, paza. Saak, jouer en dansant devant Dieu, shul. Tourner en cercle, en spirale, tourner comme ça devant Dieu. On va regarder la deuxième, tu veux bien? Tu mets la deuxième? Ensuite, Gulgil. Je suis très mauvaise en prononciation, hein, d'hébreu. Tournoyer sous l'effet d'une violente émotion et de joie. Et joie. Tournoyer, je le dis parce que je ne sais pas si vous le voyez bien. Tournoyer sous l'effet d'une violente émotion et d'une joie. Tournoyer comme ça. Voilà. Souvent, comme ça, quand il y a eu des libérations, quand il y a eu des délivrances, des prières de délivrance, j'ai très souvent vu, et moi ça me l'a fait, de tournoyer comme ça, C'est vraiment un signe de libération. Quand vous sentez votre corps qui a envie de tournoyer, c'est que vous êtes libéré. Il y a eu une délivrance, une réelle délivrance. Écoutez bien. Danser, tourbillonner, bouger en cercle, exulter, courir, sauter. Voilà, on va en faire à la fois. Danser, tourbillonner, aller bouger en cercle, exulter, courir, sauter. Vous ne croyez pas que je ne vais pas vous le faire après tout ça? Eh bien, si. Un peu. Alors, aussi, bondir, sauter, dalag. Yal, ronde de joie. Oui, voilà. Yal, ronde de joie. Machol, danser en rond. Et il y a toutes les références. Hein. Shagag, avancer en cercle pour une marche de procession. Là, on rentre dans la chorégraphie hein, aussi. Kabab, tournoyer autour d'un objet sacré. Et je suis sûre que David, quand l'arche était là, je suis sûre que lui, il dansait comme ça et il tournait autour de l'arche tellement il était heureux. Il sautait de joie, voilà, devant l'arche. Et ça montre vraiment sa joie. Et puis, vous avez aussi Ili Kab, marche en procession. Et ça, il y avait beaucoup, Myriam, l'armée, voilà. Et puis, Shuvre, tournoyer, chanter. Et Yada, utiliser ses mains pour adorer en les étendant, j'aime bien celui-là, d'un geste gracieux. Et en les étendant d'un geste gracieux. Voilà. Et je trouve que c'est... Voilà tous les mots hébreux qui sont dans la Bible et qui sont partout. Et qui donnent ce mouvement, ce geste. Alors... J'aimerais bien, avant qu'on voit un témoignage, est-ce qu'on a le temps ? J'aimerais bien avec David qu'on reprenne un chant, on se lève, et puis on va peut-être essayer de chanter notre joie, si David veut bien. Oh oui, vous pourrez rester. Oui. Oh si, parce que on va peut-être reprendre un chant, et puis avec tout ce que je viens de dire, on ne pourra pas rester collé à nos fesses sur les chaises, c'est pas possible, hein, ni les pieds sur le sol. Et voilà, on va essayer. Tu sais, le dernier que vous n'avez pas chanté, David et Flo, celui que... Ah, le dernier, quand tu répétais.
Tu projettes des lieux. Jeunes et vieux.
Ah bah oui,
jeunes et vieux
sur la double évance, c'est bien. Oui, parce que ça, c'est vrai. Si on chante jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Moi, honnêtement, je suis la plus âgée. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, vous n'avez pas de complexe. Si, je vais avoir 70 ans là bientôt. Donc, je suis la plus âgée. Et la plus jeune, c'est bébé. Là. Alors, jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie, mais aussi les jeunes hommes et aussi les vieilles dames, et aussi les hommes plus âgés. Voilà. Donc, vous vous rappelez tous les mouvements ? Oui ? N'ayez pas peur. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie.
Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Jeunes filles danseront de joie. En allégresse, et je les consolerai, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Ah, ah, je leur donnerai la joie. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Ah, ah, je leur donnerai la joie. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie.
Amen. Vous voyez, si tous les dimanches c'était comme ça, ce serait bien. Hein? Mais oui, mais ça c'est le moment de joie, mais ça ne nous empêcherait pas d'être dans l'adoration agenouillée. Toujours c'est un mouvement du corps, toujours c'est le corps qui s'exprime. Hein? Il ne s'exprime pas que dans la danse, mais il peut s'agenouiller. Je vais vous... voilà, on a eu énormément de chance, plusieurs d'entre nous, c'est-à-dire ma petite Judith, Noémie, qui n'est pas là, Emmanuel, Christelle et moi, d'être au bénéfice de stages de danse d'adoration d'une femme qui l'enseigne, qui en vit, et qui s'appelle Christine Janville Sayous. Voilà. Et là, je vais vous montrer. Donc, Emmanuel et Christelle continuent à y aller. Elle va vous expliquer donc, Christine, les différents appels. Mais voyez, Christelle, comme vous avez pu le constater, a un appel pour la chorégraphie. La danse aussi, mais la chorégraphie, et c'est assez rare. Et on bénit le Seigneur d'avoir donné ses dons à notre petite sœur. Et tous les autres, vous avez tous le don de danser. Vous pouvez tous danser pour lui.
Ok. Par Jérôme, parce qu'il parle en espagnol, mais il parle aussi français et anglais.
Bonjour, merci beaucoup, it's everything I know. Es un privilegio poder conocerles.
C'est un privilège de pouvoir vous connaître.
Esta es nuestra primera vez en Francia.
C'est notre première fois en France.
Hace seis meses nos casamos con Paulina en Chile.
Ça fait six mois que nous sommes mariés avec Paulina au Chili.
Y hoy estamos sirviendo como misioneros en una agencia misionera en los Estados Unidos.
Et nous, donc nous sommes missionnaires aux États-Unis en Floride dans une église missionnaire.
Hace 15 años trabajo con adolescentes y jóvenes.
Et ça fait 15 ans que je travaille avec des adolescents.
Yo sé que no es jeune. No es fácil trabajar con adolescentes y jóvenes.
Et je sais que c'est pas facile de travailler avec des adolescents et des jeunes.
Ese género solamente sale con oración y ayuno.
Et souvent il n'est question que de jeûne et de prière, il y a pas que des jeunes.
Pero don't worry. Okay. En 1968,
et en 1968,
se le estaba haciendo una entrevista al gran evangelista del siglo pasado, el Dr. Billy Graham.
Il y a eu une entrevue avec avec Billy Graham.
Y le preguntaron acerca de la evangelización a nivel mundial.
Et ils lui ont parlé, ils lui ont demandé alors ce qu'il en pensait de l'évangélisation au niveau mondial.
Y él contestó lo siguiente.
Et voilà ce qu'il a répondu.
He oído de alrededor de 100 organizaciones misioneras.
Et j'ai entendu parler d'environ 100 organisations missionnaires.
Que planea la evangelización del planeta Tierra antes del año 2000.
Et qui planifie l'évangélisation de la Terre avant l'an 2000.
Y él dijo, a todos ellos les deseo lo mejor.
Il dit, à toutes, je vous souhaite le meilleur.
Pero aunque hagan mucho, siempre va a haber más.
Mais même s'il y en a beaucoup, eh ben, il y en aura toujours plus.
Y él termina con esta frase.
Et il a terminé avec cette phrase.
Porque cada generación necesita ser re-evangelizada.
Chaque génération nécessite d'être réévangélisée.
Por eso es importante continuar la evangelización.
Et c'est pour ça que c'est important de continuer l'évangélisation.
A las nuevas generaciones.
Aux nouvelles générations.
No podemos asumir.
On peut pas assumer ou faire face.
Que por el hecho que tenemos gente que canta nuestra canción. Que tenemos gente que canta en los cultos o servicios.
Qui est des gens qui chantent dans les cultes et les services, par
o exemple. O vienen a los servicios.
Ou qui viennent à l'église.
Todos somos cristianos automáticamente.
Bah, que nous sommes tous chrétiens automatiquement.
De hecho, hay un refrán que dice que nadie es cristiano hasta que demuestra lo contrario.
Et il y a une phrase qui dit que tout le monde est chrétien sauf jusqu'à ce qu'il montre le contraire.
Bueno, creo en los próximos minutos.
Dans les minutes qui suivent.
Simplemente quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón, creo.
Je voudrais simplement partager quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur.
Es la historia del paralítico de Bethesda.
C'est l'histoire du paralytique de Bethesda.
Juan capítulo 5 versículo 1 al 9.
Jean 5 verset 1 à 9.
En este pasaje tenemos una historia maravillosa.
Et donc dans ce passage, nous avons une histoire merveilleuse.
Jesús llega a un estanque donde hay muchos ciegos, cojos y paralíticos.
Alors Jésus vient à un endroit où il y a une piscine autour de laquelle viennent beaucoup d'aveugles, de paralytiques, de blessés.
Yeah. Algo no muy distinto al mundo el que vivimos hoy.
Et c'est pas très différent du monde que nous vivons aujourd'hui.
Donde hay mucha gente enferma, frustrada.
Y hay beaucoup de gens malades, frustrés.
Con problemas económicos, relaciones rotas.
Avec des problèmes économiques, des relations rompues, cassées.
Luchando con muchas adicciones.
Qui lutte avec beaucoup d'addictions.
Y buscando una misión imposible.
Et qui cherche une mission impossible.
Ser sanados.
Être guéri.
Es interesante que en algunas Biblias.
C'est intéressant parce que dans certaines Bibles.
El versículo 4 no está.
Il y a pas le verset 4.
Porque los últimos manuscritos que se han encontrado.
Parce que les derniers manuscrits qui ont été trouvés.
El versículo 4 donde explica que un ángel descendía de tiempo en tiempo.
C'est expliqué qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps.
Y movía el agua.
Qui remuait l'eau.
Se piensa que esto era más bien una superstición judía.
Et on supposait que c'était une superstition juive.
Que básicamente explicaba por qué los cojos, los ciegos y los enfermos estaban alrededor del estanque.
Qui expliquait pourquoi tous les paralytiques et les malades étaient guéris
autour, pourquoi ils venaient tous
autour.
Y la realidad es que cuando tú y yo hemos perdido o cuando alguien ha perdido toda esperanza.
Et la vérité c'est que quand toi ou moi on a perdu tout espoir.
Está dispuesto a hacer lo que sea.
Bah, tu es prêt à faire ce qu'il faut faire.
Incluso
n'importe quoi.
À creer lo que sea.
Et même à croire certaines choses.
Pero lo importante de estos primeros versículos en el capítulo 5.
Mais le plus important de ce chapitre 5.
Es que el énfasis no está en el ángel que descendía de tiempo en tiempo.
Mais c'est pas l'accent n'est pas mis sur l'ange qui descend de temps en temps.
Tampoco el énfasis está en el estanque.
C'est pas non plus sur la piscine qu'on met ça en exergue.
Sino que el énfasis está en el Mesías, en el Hijo de Dios.
Mais non, il est fait mention du Fils de Dieu, du Messie.
Que entra en medio de este mar de enfermos.
Qui arrive au milieu de cette mer de malades.
Y ve a este hombre que está 38 años sin poder levantarse.
Il voit cet homme de 38 ans qui est là, qui peut pas se lever.
Él no estaba 5 días.
Il n'était pas là depuis 5 jours.
Él no estaba algunos meses sin poder levantarse.
Il n'était pas là depuis quelques mois, pas pouvoir se lever.
Él estaba allí 38 años.
Fait depuis 38 ans.
Gran parte de su vida.
Une énorme partie de sa vie.
Y Jesús le hace una pregunta interesante.
Et Jésus lui pose une question intéressante.
Una pregunta que es divertida y a veces un poco rara.
Bon, c'est une question un petit peu curieuse, un peu amusante même.
Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano?
Est-ce que tu veux être guéri?
Pareciera una pregunta muy obvia, ¿no?
Ça a l'air évident comme question, non?
Pero aquí está lo primero que quiero compartirles.
Mais voilà ce que je voudrais déjà partager avec vous.
Si queremos ser sanos,
si nous voulons être guéris,
si queremos levantarnos,
si nous voulons nous lever,
debemos decidir que queremos ser sanos.
On doit décider d'abord de vouloir être guéri.
Necesitamos tomar la decisión.
On doit prendre la décision.
Hay muchos que están tratando de levantarse en sus propias fuerzas.
Il y a beaucoup de gens qui essayent de se lever d'eux-mêmes, de leurs propres forces.
Y hace un rato cantábamos que Dios es capaz de hacer todo lo que él dijo que iba a hacer.
Et tout à l'heure nous chantions que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit qu'il allait faire.
Pero hay mucha gente que no quiere ser levantada, no quiere mejorarse.
Mais il y a plein de gens qui ne veulent pas se lever, qui ne veulent pas s'améliorer.
Y déjenme mencionarle por qué razones.
Et donc, ils abandonnent la bénédiction pour plusieurs raisons.
Rapidamente. Algunos no quieren ser sanados por autocompasión.
Alors, certains, ils ne veulent pas être guéris par compassion, par pitié d'eux-mêmes.
Son esas personas que dicen, ah, pobrecito de mí.
Ils disent, oh, pauvre de moi.
Pareciera que mantenerse en esa posición... En esa condición,
et donc se rester dans cette condition, dans cette position,
tiene mejor retribuciones para ellos.
Pour eux, ça leur semble finalement une meilleure récompense.
Porque tienen la atención y la compasión de toda la gente alrededor.
Parce que finalement, ils ont la compassion et l'attention de tous les gens autour d'eux.
Algunos no quieren ser sanados también por miedo al cambio.
Alors d'autres, ils ne veulent pas être guéris parce qu'ils ont peur du changement.
Cambiar o no cambiar, he ahí el dilema.
Et changer ou ne pas changer, voici le dilemme.
Pareciera que tenemos miedo a lo desconocido.
Et on dirait qu'on a peur de tout ce qui nous est inconnu.
Miedo a lo que no hemos probado.
On a peur de ce qu'on ne connaît pas.
Pareciera que nuestra realidad es todo lo que existe y no hay nada más allá de eso.
C'est comme si notre réalité c'est la seule réalité qu'on connaît, c'est celle qu'on voit et qu'il y a rien d'autre en dehors de ce qu'on voit.
Otros no quieren ser sanados simplemente porque han perdido la esperanza.
D'autres simplement ne veulent pas être guéris, tout simplement parce qu'ils ont perdu l'espoir.
En otras palabras, en español decimos han tirado la toalla o han quieren dejar la carrera.
On dit chez nous qu'on jette la serviette, on jette l'éponge.
Pareciera que su petición es un imposible.
On dirait que c'est une demande qui est impossible.
Ya lo han intentado muchas veces.
Moi j'ai déjà essayé plusieurs fois.
Pero no han podido.
Mais j'ai pas réussi.
Jesús quiere levantarnos.
Et Jésus veut nous lever, veut que nous
y
nous levions.
Nos hace la misma pregunta que le hizo a este paralítico.
Et donc il nous pose la même question qu'il a posée à ce paralytique.
¿Quieres ser sanado?
Est-ce que tu veux être guéri?
¿Quieres levantarte?
Est-ce que tu veux te lever?
¿Quieres mejorarte?
Est-ce que tu veux t'améliorer?
¿Qué le vamos a responder a Jesús?
Qu'est-ce qu'on va répondre à Jésus?
Fíjese lo que le responde este hombre.
Et voilà, regardez bien ce qu'il répond cet homme.
Señor.
Seigneur.
No tengo nadie que me meta en el estanque.
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine.
Mientras se agita el agua.
Quand l'eau est agitée.
Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes.
Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.
Escuche bien lo que dice este paralítico.
Écoutez bien ce que dit ce paralytique.
Porque este paralítico se parece a muchos de nosotros.
Il ressemble beaucoup à nous.
Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano?
Quand Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri?
Él le da todas las razones por las cuales no puede ser sano.
Bah, il donne toutes les raisons pour lesquelles il peut pas être guéri.
Él le dice, no tengo.
Je n'ai pas.
Y muchas veces nosotros somos así.
Et nous aussi, souvent, on est comme ça.
Así que si queremos ser sanos,
donc si nous voulons être guéris,
no solo debemos decidir que queremos ser sanos.
On n'a pas seulement besoin de décider d'être guéri.
Sino también debemos dejar de dar excusas.
Mais aussi, on doit arrêter de donner des excuses.
Debemos dejar de culpar a otros por nuestras decisiones.
On a besoin d'arrêter de trouver des coupables. De dire que les autres sont coupables.
Y debemos dejar de culpar a otros.
On doit arrêter de dire que les autres sont coupables.
Hay muchos cristianos.
Beaucoup de chrétiens.
Que pareciera que todos los demás tienen la culpa menos ellos.
Et on dirait que selon eux, tout le monde est coupable sauf eux.
Y siempre tenemos alguna excusa.
Et on a toujours une excuse.
Déjeme darle algunas excusas, las excusas más comunes.
Alors voici quelques excuses les plus courantes.
Hay otros que están peor.
Il y en a d'autres qui sont pires.
El lunes comienzo.
C'est l'autre qui a commencé.
Todos lo hacen.
Tous font pareil.
No tengo tiempo, soy una persona muy ocupada.
Mais non, j'ai pas le temps, je suis quelqu'un de très occupé.
Yo puedo solo.
Moi seulement je peux.
Mi caso es un caso especial.
Non, mon cas est un cas particulier.
Yo quería, pero no puedo.
Moi je voulais bien, mais je ne peux pas.
Soy un caso perdido.
Moi je suis un cas perdu.
Y podríamos seguir enumerando muchas excusas.
Et on peut continuer comme ça à énumérer beaucoup d'excuses.
Muchas excusas que ponemos para que Dios haga una obra.
Et beaucoup d'excuses qu'on sort pour.
Por eso creo mucho en lo que dice este refrán.
Et c'est pour ça que je crois beaucoup ce que dit le refrain.
No le digas a Dios el tamaño de tu montaña.
Ne dis pas à Dieu la taille de ta montagne.
Mejor dile a la montaña el tamaño de tu Dios.
Dis plutôt à la montagne la taille de ton Dieu, combien Dieu est grand.
Dios quiere levantarnos.
Dieu voudrait que nous nous levions.
Dios quiere que podamos superar aquellas áreas débiles de nuestra vida.
Il voudrait que nous puissions dépasser toutes les difficultés
no
de la vie.
No necesitamos estar en el piso por tanto tiempo más.
On n'a pas besoin de rester comme ça à terre encore plus longtemps.
Pero debemos decidir que queremos ser sanos.
Déjà, il faut décider que nous voulons être guéris.
Pero también debemos dejar de dar excusas.
Et on doit arrêter de donner, de trouver des excuses.
Y veamos lo que este, lo que sucede.
Et on va voir ce qui se passe.
Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y camina.
Et donc Jésus lui dit à cet homme, lève-toi, prends ton, j'imagine, prends ton grabat et emporte ton lit et va-t'en.
Y camina.
Et marche.
Si queremos ser levantados,
si vous voulez être, si vous voulez pouvoir vous lever,
también debemos hacer lo que Jesús dice.
On doit pouvoir faire ce que Jésus nous dit de faire.
Y a veces hacer lo que Jesús dice.
Et parfois faire ce que Jésus nous demande.
Es algo complejo.
C'est quelque chose de complexe.
¿Por qué? Porque hacer lo que Jesús dice es algo atrevido muchas veces.
Parce que parfois faire ce que Jésus demande nécessite du courage.
Es algo arriesgado.
Algo
arriesgado. Take risk.
C'est quelque chose qui nécessite de prendre des risques.
Muchas veces hacer lo que Jesús dice implica salir de nuestra zona de comodidad.
Et souvent ce que Jésus nous demande de faire, ça implique de sortir de notre zone de sécurité.
Hacer lo que Jesús dice no nos hace las personas más populares.
Eh bien, faire ce que Jésus nous demande de faire, ça ne fait pas de nous la personne la plus populaire.
Muchas veces hacer lo que Jesús dice implica perder algo.
Et souvent, la plupart du temps, ce que Jésus nous demande de faire implique qu'on perde quelque chose.
O dejar algunas cosas atrás.
Ou il faut laisser certaines choses derrière nous.
Me gusta mucho lo que dice un teólogo escocés llamado William Berkeley.
Alors, ça me plaît beaucoup ce que dit un théologien écossais appelé William Berkeley.
Y dice lo siguiente, la fe no es solamente un compromiso con las promesas de Cristo.
Et donc il dit que la foi n'est pas seulement un engagement envers les promesses du Christ.
La fe también es un compromiso con las demandas o las exigencias de Cristo.
Et la foi c'est également ce qui était marqué. Voilà.
Is good? No? Oh, sorry. No, don't worry. No, no va a volver.
No, c'est pas grave.
Okay. Pero se lo puedo repetir. La fe no es solo un compromiso con las promesas de Cristo.
Je vais répéter. La foi n'est pas seulement un engagement vers les promesses de Christ.
Es un compromiso con las también es un compromiso con las exigencias.
C'est aussi un engagement envers les exigences du Christ.
Si queremos ser levantados,
si on veut être relevé,
no solamente necesitamos decidir que queremos ser sanos.
On ne doit pas seulement décider qu'on veut être guéri.
No solamente necesitamos dejar de dar excusas.
Non, ça pas seulement non plus arrêter de trouver des excuses.
Pero también debemos hacer lo que Jesús dice.
Mais en plus, on doit faire ce que Jésus nous demande de faire.
No importa tanto cuán difícil sea.
Peu importe si c'est difficile.
¿Ustedes creen esto?
Vous croyez à cela?
¿Creen que Dios puede hacer todo lo que él dijo que él puede hacer?
Vous croyez que Dieu peut faire tout ce qu'il dit qu'il peut faire?
Hace un rato lo cantábamos.
Eh ben, tout à l'heure on l'a chanté.
Y lo importante es que no solamente necesitamos proclamarlo o declararlo con nuestra boca.
Eh bien, le plus important, c'est pas qu'on le pense, qu'il faut le proclamer avec nos bouches.
También tenemos que hacerlo.
Il faut le faire aussi.
Y eso implica fe.
Et ça demande de la foi.
Quiero animarles en esto.
Je voudrais vous encourager avec ça.
Y me gustaría hacer una oración.
Et je voudrais prier.
¿Puedo pedirle que se pongan de pie, por favor?
Et je peux voir que tout le monde se mette debout, s'il vous plaît.
Yo no sé qué es lo que muchos de los que están acá están viviendo en su vida.
Je sais pas ce que vous vivez chacun dans vos vies.
Quizás algunos están enfermos.
Peut-être que certains vous êtes malades.
Quizás algunos se sienten frustrados.
Peut-être que certains vous sentez frustrés.
Quizás algunos están experimentando relaciones rotas.
Peut-être que certains d'entre vous êtes en train d'expérimenter des relations cassées ou des problèmes dans la famille.
Algunos tienen problemas económicos.
Peut-être que certains vous avez des problèmes d'argent.
Algunos están luchando con depresiones y emociones.
Et certains d'entre vous, peut-être que vous luttez avec des dépressions, des problèmes avec les émotions.
La esperanza de este hombre no estaba en el ángel.
Et l'espérance de cet homme n'était pas dans l'ange.
Tampoco estaba en el estanque.
C'était pas non plus dans la piscine.
La esperanza estaba en Jesús.
Et son espoir, c'était en Jésus.
Tu esperanza está en Jesús.
Ton espérance, c'est dans Jésus.
Y Jesús te pregunta a ti.
Et Jésus te demande à toi.
¿Quieres ser sanado?
Est-ce que tu veux être guéri?
¿Quieres ser sano?
Tu veux être en bonne santé?
¿Qué le vas a responder?
Qu'est-ce que tu vas répondre?
Oremos.
Prions.
Querido Dios.
Seigneur Dieu,
tu eres el mismo ayer, hoy y para siempre.
Tu es le même hier, aujourd'hui et demain.
Y tú hablas antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo.
Et tu as parlé depuis toute éternité et pour toute éternité.
Tú conoces nuestras vidas.
Tu connais nos vies.
Y sabes perfectamente lo que estamos enfrentando.
Et tu sais exactement ce à quoi nous avons à faire face.
De algo podemos estar seguros.
Il y a quelque chose dont nous pouvons être certains.
Nuestras circunstancias no son perfectas.
Nos circonstances ne sont pas parfaites.
Pero tú eres el Dios perfecto.
Mais toi, tu es le Dieu parfait.
Tú eres un Dios lleno de amor.
Toi, tu es un Dieu plein d'amour.
Lleno de misericordia.
Plein de miséricorde.
Y por eso venimos a ti.
Et c'est pour cela que nous venons à toi.
No queremos estar por mucho más tiempo tirados en el piso.
On veut pas comme ça rester au sol plus de temps.
Luchando con pensamientos, enfermedades y situaciones en nuestra vida.
À lutter avec nos pensées, nos maladies et nos situations difficiles.
Queremos confiar en Jesús.
Nous voulons nous confier en Jésus.
Para ser levantados.
Pour que tu nous relèves.
Para ser sanados.
Pour que tu nous guérisses.
Hoy decidimos que queremos ser sanados.
Aujourd'hui, nous décidons que nous voulons être guéris par toi.
Reconocemos que solamente en ti hay poder para ser sanados.
Nous reconnaissons qu'il y a seulement le pouvoir, la puissance en toi pour être guéri.
De nuestro cuerpo y de nuestra alma.
Que ce soit pour notre corps ou pour notre âme.
Y también te pedimos perdón.
Et nous te demandons également pardon.
Por estar siempre dando excusas.
Parce que nous cherchons toujours des excuses.
Por caer en la murmuración y en la queja.
Et pardon parce que nous murmurons et nous nous plaignons.
Y por culpar a otros.
Et parce que nous rejetons la faute sur les autres.
Muchas veces por nuestros propios por nuestras propias decisiones.
Et souvent aussi pour nos propres décisions.
Te pedimos Dios.
Nous te demandons ô notre Dieu.
Que nos ayudes también a hacer lo que Jesús dice.
Que tu nous aides à faire ce que Jésus nous demande.
No importa cuán arriesgado sea.
Peu importe les blessures que l'on a.
No importa si eso no va a hacer que salgamos de nuestra zona de comodidad.
Peu importe si ça nous fait sortir de notre zone de sécurité.
No importa si eso no nos hace las personas más populares.
Peu importe si nous ne devenons pas, si nous, ça ne fait pas de nous la personne la plus populaire.
Queremos obedecerte.
Nous voulons t'obéir.
Para poder ver tu poder.
Pour voir ta puissance.
Actuando en nuestras vidas.
Agir dans nos vies.
Y para que muchos te puedan conocer.
Et pour que beaucoup puissent te connaître.
Oramos esto.
Nous prions.
En el nombre de Jesús.
Dans le nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Merci beaucoup.